possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il y a aujourd'hui 150 ans exactement qu'eut lieu la séance royale.
Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, 14 juillet 1937.
Ce jour-là, le roi Louis XVI, admettant les principes du régime constitutionnel et les droits essentiels de l'homme et du citoyen réclamés par les trois ordres sans distinction, reconnut que la révolution de la liberté était vraiment nationale. Mais en se prononçant pour le maintien des privilèges et des prérogatives de l'aristocratie, il marqua l'objet propre de la révolution de 1789, qui fut celle de l'égalité dans la liberté.
Devenait une icône républicaine. Ce qui avait été assassiné le 20 juin 1944, et ça je crois que c'est vrai, les miliciens qui l'ont assassiné savaient que tout était perdu pour eux. Mais ils savaient aussi que cet homme contribuerait à la restauration de la République. Et ce qu'il tue en Jean Zay, c'est la République dont ils ne veulent pas qu'elle renaisse. Parce que dans Souvenir et solitude, cette réflexion que mène Jean Zay, c'est comment faire une République plus forte et plus juste. C'est ça qu'on assassine.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans ce quatrième épisode de cette rapide histoire de Jean Zay. Brillant ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du gouvernement de Front populaire de 36 à 39, véritable républicain, homme de gauche, laïque, persécuté par Vichy sous prétexte qu'il avait de lointaines origines juives, Jean Zay fut aussi certainement haï par le régime de Pétain parce qu'il fut un ministre efficace et apprécié de nombre d'enseignants et d'élèves. Dans ce combat de l'endoctrinement de la jeunesse selon Vichy, contre l'éducation républicaine du Front populaire, c'est l'œuvre culturelle et pédagogique de Jean Zay qui semble, du moins pour le moment, l'avoir emporté. On en parle à nouveau aujourd'hui avec Hélène Moucharzet, fille de Jean Zay. Bonjour madame.
Bonjour.
Au-delà des réalisations du jeune ministre qui n'a pas 40 ans quand il est assassiné le 20 juin 1944 par les fascistes français de la milice, nous allons aujourd'hui nous demander pourquoi la mémoire et l'histoire de Jean Zay vont tomber dans un demi-siècle d'oubli. À la Libération, pendant que de Gaulle installe le mythe d'une France unie et totalement résistante. Cet autre grand résistant de la première heure qu'est Jean Zay, pourtant condamné en 40 par le même tribunal qui condamne le général, Jean Zay a littéralement disparu, bien et corps. On n'identifiera son corps qu'en 48, 4 ans après son meurtre. De 44 à 48, on ne sait pas comment il s'est volatilisé. Mémoires et histoires de Jean Zay effacées pendant 50 ans.
On dit souvent devoir de mémoire, j'aime pas cette expression. La mémoire, c'est un travail de mémoire et devoir d'histoire. Je pense que les historiens, pendant des années, n'ont pas accompli ce devoir qui aurait dû être, je parle des historiens français, ils se sont mis au travail, au fond, sur ces questions-là, tardivement.
Pendant sa détention, Jean Zay va de 40 à 43 rédiger « Souvenirs et solitude », journal où il croise passé et futur, les réalisations lors de son ministère, les réformes à entreprendre à la Libération. Jean Zay produit aussi une véritable réflexion sur le présent de la prison. Il y a ce matin un an que j'ai perdu ma liberté. Les mots traduisent mal ce que contient cette idée. Il faudrait dire un an qu'on m'a amputé de ma liberté tant la sensation est celle de la perte d'un membre ou d'un sens. Depuis un an, je puis aller et venir sur une vingtaine de mètres, mais je me heurte ensuite à un mur. Et cet arrêt brusque dans la promenade interrompt chaque fois le mouvement de la pensée, comme celui des jambes. Ainsi, l'animal attaché au piquet reçoit-il le coup de frein de la corde quand il en a atteint la limite. Mais la contrainte physique est toujours supportable. Elle appelle vite l'oubli, l'habitude. Plus lourde est la conscience de l'humiliation intellectuelle. Il semble qu'on vous vole un morceau de votre vie, une partie même de votre être, qu'on vous a diminué et rendu infirme en vous dérobant votre libre arbitre. Vous êtes à la disposition de mains étrangères, devenue une chose qu'on manipule, un objet sans défense que des mains indifférentes et vulgaires repoussent dans un coin avec mépris. Véritable supplice que le sentiment d'une totale impuissance. Vous n'êtes plus maître de vos affaires personnelles les plus insignifiantes. Cette démarche dérisoire, cette course dans un magasin qui suffirait à régler tel besoin intime, elle est hors de votre portée, plus inaccessible que jadis le rêve d'un voyage lointain. L'épicier du coin est plus éloigné de l'Inde que la Chine. Vous êtes ligoté, neutralisé, hors de la vie et de ses plus modestes attributs. Il vous faut, pour acheter un journal, une boîte d'allumettes, recourir à la complaisance du visiteur ou du greffier. Ne croyez-vous pas être atteint de paralysie, de gâtisme, semblable au vieillard cloué sur sa chaise longue ? Tout ce que vous possédez de jeunesse et d'énergie inemployée rend honteuse votre inutilité. Quoi donc ? Vous voilà incapable de gagner le pain de vos enfants et pourtant, vous sentez plus alerte que jamais les forces de votre corps et de votre cerveau. Pour un temps dont vous ignorez la durée et au moment où rôdent les périls, vous ne pouvez étendre aucun geste protecteur sur ceux que vous aimez. C'est vous qui avez besoin au contraire d'être protégé, aidé, nourri, assisté dans les plus petites choses. La condamnation à l'impuissance, voilà le trait le plus cruel de la prison. Il faut un effort pour estimer encore en soi l'homme complet avec tous ses moyens endormis.
Je crois qu'il a lutté constamment, alors ça ne se voit pas dans Souvenirs et Solitude parce qu'il ne montre que ce qu'il veut bien montrer, mais dans la correspondance on le voit, c'est qu'il lutte constamment contre le désespoir, contre le découragement. À un moment il dit j'ai passé autant de temps en prison que le temps que j'ai passé au gouvernement et que le temps que j'ai passé depuis mon entrée, c'est-à-dire un tiers de sa vie d'adulte finalement. Donc ce temps qui passe et puis cette douleur perpétuelle, cette inquiétude qu'il a pour tout le monde... Il a fallu qu'il le surmonte. Et dans Souvenirs et Solitude, on ne voit aucune faiblesse. Mais il a passé son temps à lutter contre le découragement, comme tous les prisonniers. Hein. Je veux dire, moi j'ai vu beaucoup de correspondances de prisonniers, on voit à quel point...
Il faut à chaque instant faire jouer sa pensée, comme on fait jouer ses muscles pour se sentir intact, riche de sève et de volonté. Alors le souvenir des jours passés, la certitude de la liberté intérieure, l'espérance de la délivrance... peut-être proche, et des activités retrouvées surnagent soudain comme la planche de salut, et vous êtes sauvé. A-t-elle passé rapidement cette longue année de captivité ? Elle a été interminable et fugitive. Les heures et les jours se sont écoulés lentement. Les semaines et les mois se sont enfuis comme un rêve. C'est qu'il a fallu tuer les minutes une à une, mais que ces jours vides n'ont pas marqué dans le souvenir et que par conséquent la pensée les embrasse maintenant d'un coup d'œil et croit à peine qu'ils ont existé puisqu'ils n'ont rien contenu. Telle journée sans occupation a été longue et épuisée, mais n'a pas laissé de traces dans la mémoire. Elle n'est plus, elle n'a pas été. Telle autre, meublée d'une visite précieuse, a paru fuir vertigineusement. Mais chaque détail en demeure présent et vous n'oublierez pas que vous l'avez vécu. Ce n'est pas le temps qui est réel, mais ce que nous y mettons, ce qu'il contient. Il n'est pas notre maître, nous sommes le sien. Le temps a deux vitesses, celle du présent et celle de la mémoire, deux perspectives aux proportions différentes et trompeuses. Le vrai sage doit arriver à les discipliner, à les aménager harmonieusement, à les raisonner pour les rendre cohérentes. Puisse la solitude m'aider à y parvenir. C'est ainsi que l'épreuve sera féconde.
Ce qui est extraordinaire, c'est que dans Souvenirs et Solitude, il y a une sorte de, j'allais dire, de sérénité. Oui, presque de sérénité, mais ça, c'est vraiment une victoire quotidienne contre le découragement. Et du coup, il fabrique en effet quelque chose qui est de l'ordre de la pensée, qui est de l'ordre de la réflexion. C'est son arme à lui. Il ne peut pas prendre un fusil, Mais son arme à lui, c'est la réflexion, c'est l'écriture.
Peut-être qu'il aurait fait un excellent garde des Sceaux, après tout, au ministre de la Justice, parce qu'il cite quelqu'un qui dit « les magistrats et ceux qui jugent les autres, peut-être qu'on devrait leur faire faire un petit stage de 15 jours en prison pour qu'ils voient à quoi ils vont condamner les autres plus tard. »
Il souligne aussi que la justice n'est pas la même pour tout le monde.
En observant la vie de la maison d'arrêt et le visage de ses hôtes, je médite sur l'incroyable inégalité de la prison. Pour les criminels et les délinquants, leurs fautes fussent-elles les mêmes, l'inégalité commence avec le procès. Tel sera défendu par un grand avocat, tel autre devra se contenter du défenseur d'office. Jugé dans la bonne humeur d'un matin printanier, l'un bénéficiera de l'indulgence, l'autre subira après déjeuner les conséquences d'une mauvaise digestion du juge. Mais quand la porte s'est refermée sur les reclus, l'injustice s'accroît encore. Il en est qui ont de l'argent au greffe, se ravitaillent à la cantine, reçoivent des colis et des visites. D'autres qui, réduits à la gamelle, ne voient que les visages de leurs gardiens et de leurs compagnons de cellule pendant de longues années et n'ouvrent jamais une lettre ni un colis. La prison n'est pas la même pour le célibataire, pour l'homme marié, pour le père de famille, pour l'isolé et pour celui qui a des amis, pour le bien portant et pour le malingre. Elle n'est pas la même pour le vagabond habitué aux rebuffades, et pour l'homme auquel la société réservait des égards. L'un n'a guère changé de milieu, l'autre doit étouffer tous ses besoins et toutes ses habitudes. Elle diffère pour le travailleur et pour le paresseux, pour l'homme attaché à la vie et pour celui qui s'en désintéresse, pour le croyant et pour l'incrédule. Comme la vraie souffrance est dans la pensée et que les privations intellectuelles pèsent 100 fois plus que les maux corporels, l'homme cultivé et intelligent jeté en prison gravite un calvaire. Il mesure quel rapport étroit unit l'intelligence et la douleur. Il apprend que, pour être trop cérébral, existent des possibilités infinies de torture morale. Dans son cerveau se meut une diabolique mécanique qui le ronge, le mine, l'use lentement, le poursuit le jour dans ses promenades comme dans ses méditations, la nuit dans ses cauchemars comme dans ses insomnies. Elle lui distille les mille façons de souffrir, découvre avec une imagination perverse tous les aspects de son épreuve, toute son absurdité, toutes ses conséquences, et non contente de l'empoisonner de regrets dans l'évocation du passé, se sert de l'avenir pour mieux le supplicier, pour projeter sur un écran invisible les malheurs encore inconnus, les aggravations possibles, les catastrophes latentes. Elle lui présente une idée exagérée de la liberté, tente de lui arracher la confiance en soi et le goût du travail. C'est alors que cet homme apprendra à se connaître. Et cependant, le régime pénitentiaire jette pêle-mêle dans les mêmes dortoirs et les mêmes ateliers ces créatures si différentes, dont les fautes ne sont pas comparables. Quelle contamination n'en résulte-t-il pas ? Et comme on comprend que la prison soit un châtiment effroyable pour certains, et une punition légère pour d'autres. L'inégalité se poursuivra d'ailleurs après la sortie, car suivant la situation sociale, la honte subie n'aura pas de conséquences ou brisera pour jamais une existence. La prison n'est dure que pour les meilleurs, ou si l'on préfère, pour les moins mauvais. Un humoriste a proposé d'inscrire dans le stage des magistrats 15 jours de détention afin qu'ils sachent ce que représentent exactement les peines qu'ils infligeront dans leur carrière. Comment le saurait-il même à ce prix? Pour doser sciemment un châtiment comme pour apprécier une culpabilité, il faudrait avoir vécu toute l'existence de l'homme, connaître tous ses ressorts physiques et moraux. Rendre la justice est la plus insensée de toutes les entreprises humaines. Après avoir traversé un demi-siècle de silence, la mémoire puis l'histoire de Jean Zay réapparaissent progressivement dans les années 90, et en 2015, ce héros oublié de la République entre au Panthéon. Or, des gens cherchent encore aujourd'hui à salir sa mémoire et le traitent d'anti-français, sous-entendu de juif, à part qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de le dire, en brandissant un poème intitulé « Le drapeau », un texte que Jean Zay a écrit à 19 ans en 1924, 6 ans après le traumatisme de la grande boucherie de 14-18. La courte vie de Jean Zay démontre son patriotisme de façon évidente. Rappelons juste par exemple qu'alors que rien ne l'y obligeait, en 1939, il demande à être incorporé dans l'armée où ses chefs voudront d'ailleurs le décorer pour son courage. Il est donc stupéfiant de lire encore aujourd'hui des relents de propagande d'extrême droite à propos de ce poème de jeunesse qui poursuit Jean Z depuis les années 30. Que dit le drapeau ? Pas autre chose que ce que disait Anatole France à propos de la guerre. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels.
Il y a un peu de ça. Il a 19 ans. Il fait partie d'un groupe de jeunes gens qui adorent la littérature, qui s'entraînent un petit peu à des exercices littéraires. C'est à la sortie de la guerre et comme toute cette génération est horrifiée par ce massacre abominable. On est en train de célébrer un million de morts dans la Somme, enfin bon, des choses abominables. Donc il y a du pacifisme, clairement. Et lui écrit un poème, Le Drapeau, qui est purement privé, hein, qui n'est ni un manifeste, ni destiné à être publié, qui est en fait, comme il l'a dit, une sorte d'exercice littéraire, pastiche d'un Gustave Hervé qui était à l'époque connu, bon, etc. Voilà, entre jeunes gens, ils font circuler les choses qu'il écrit. Et puis ce poème est influencé, alors dans son expression, par les surréalistes. Hein. On est en pleine période surréaliste, avec cette violence verbale qu'il y a, cette radicalité. Donc c'est un poème, en effet, très violemment pacifiste. Qu'est-ce que c'est que le drapeau pour qui sont morts ? Plus que l'attaque contre le drapeau, dans ce texte qui a des accents très beaux, il faut le dire ce texte, il y a ces centaines de milliers de jeunes gens qui ont tout perdu. Je le dis mal parce que c'est une expression poétique, mais il faut le lire, c'est ça d'abord qui le révolte. Hein. Pourquoi ils sont morts ?
Le drapeau par Jean Zay. Ils sont 1500 000 qui sont morts pour cette saloperie-là. 1500 000 dans mon pays. 15 millions dans tous les pays. 1500 000 morts. Mon Dieu. 1500 000 hommes morts pour cette saloperie tricolore. 1500 000 dont chacun avait une mère, une maîtresse, des enfants, une maison, une vie, un espoir, un cœur. Qu'est-ce que c'est que cette loque pour laquelle ils sont morts ? 1500 000 morts. Mon Dieu. 1500 000 morts pour cette saloperie. 1500 000 éventrés, déchiquetés, anéantis dans le fumier d'un champ de bataille. 1500 000 qui n'entendront plus jamais, que leurs amours ne reverront plus jamais. 1500 000 pourris dans quelques cimetières, sans planche et sans prière. Est-ce que vous ne voyez pas comme ils étaient beaux, résolus, heureux de vivre, comme leurs regards brillaient, comme leurs femmes les aimaient ? Ils ne sont plus que des pourritures pour cette immonde petite guenille. Terrible morceau de drap coulé à ta hampe, je te hais férocement. Oui, je te hais dans l'âme, je te hais pour toutes les misères que tu représentes. Pour le sang frais, le sang humain aux odeurs âpres qui giclent sous tes plis. Je te hais au nom des squelettes. Ils étaient 1500 000. Je te hais pour tous ceux qui te saluent. Je te hais à cause des peignes-culs, des couillons, des putains qui traînent dans la boue leur chapeau devant ton ombre. Je hais en toi toute la vieille oppression séculaire, le dieu bestial, le défi aux hommes que nous ne savons pas être. Je hais tes sales couleurs, le rouge de leur sang, le sang bleu que tu voles au ciel, le blanc livide de tes remords. Laisse-moi, ignoble symbole, pleurer tout seul, pleurer à grands coups, les 1500 000 jeunes hommes qui sont morts. Et n'oublie pas, malgré tes généraux, ton fer doré et tes victoires, que tu es pour moi de la race vile, des torches-culs. Jean Zay, 19 ans en 1924, 6 ans après la fin de la guerre de 14-18.
Ce texte va être vendu par quelqu'un qui se disait son ami, un de ses amis, et vendu à la presse d'extrême droite. Qui, au moment où Jean Zay se présente à l'élection, en 1932, ils vont sortir ce texte. Ils n'ont pas peur de dire que c'est parce qu'il est juif. Vous voyez, ces juifs qui n'aiment pas la France, qui de toute façon sont des étrangers, que Jean Zay soit protestant, bouddhiste, machin truc, peu importe, il est juif, et donc étranger. Le juif, de toute façon, ne peut pas aimer la nation et forcément la trahir. Et donc ce texte, Ils vont le sortir dans le journal du Loiret, qui est un journal violemment antisémite, anti-républicain, etc., en le présentant comme un manifeste, comme un drapeau que Jean-Zé aurait brandi, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas. Alors il y a un texte incroyable où, dans le journal du Loiret, comment la cité de Jeanne d'Arc, ô honte, ô infamie, va avoir un député juif. Bon. Donc ce texte sort à la première élection. Il va ressortir, évidemment, quand il entre au gouvernement en 1936, dans le gouvernement Sarrou. Il devient sous-secrétaire d'État. Il y a une interpellation à la Chambre. Il explique ce qu'est ce texte, qui date de l'extrême jeunesse, en disant qu'évidemment, il ne réécrirait jamais dans le contexte actuel. Donc, en le désavouant, d'une certaine façon, étant donné le contexte, il a fait la preuve, de toutes les façons possibles, de son patriotisme. Ensuite, il y a toutes ses positions contre le fascisme. Il s'engage. Il n'y a pas moyen de prouver un patriotisme plus grand. Et le texte va ressortir dans la presse d'extrême droite en 1941. Et il y a un livre qui va sortir en 1942.
Dans la veine des textes antimilitaristes et antipatriotards inspirés par 14-18, il y a aussi cette chanson qui fit scandale en son temps.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, et c'est pour eux qu'on rêve. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Chanson de Craonne, écrite au cœur de la grande boucherie de 14-18 et qui devint si populaire dans les tranchées traversées de mutinerie que l'état-major français offrit une récompense pour en découvrir l'auteur, resté inconnu, car il ne fut jamais dénoncé. Chanson de Craonne, aujourd'hui enseignée dans les manuels d'histoire, et qui dénonce que le jeune Jean Zay dénonçait en 1924 avec son poème « Le drapeau » que l'extrême droite lui reproche depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui.
Sans arrêt dans sa vie politique, ce texte va ressortir. Toute cette presse ignoble, hein, vous n'imaginez pas les attaques antisémites, je parle d'avant la guerre, hein, dans la presse d'extrême droite, pendant la guerre, bien évidemment. Chose extraordinaire, c'est ressorti au moment du Panthéon. C'est d'ailleurs, moi, quand j'ai vu, première fois sur Internet, vous savez où est-ce que c'est sorti en premier ? Sur le site d'Alain Soral.
Tiens donc.
Alain Soral, vous voyez qui c'est ?
Oui, oui.
Vous pouvez aller voir. Hein,
ah non, non.
C'est ressorti là. Bon, ça encore, c'est pas très étonnant. Mais que certaines associations d'anciens combattants, d'anciens parachutistes, aient repris cette polémique-là, je n'en revenais pas. Et en des termes identiques, comme si le temps n'était pas passé. Et puis ça ressort parce que le Panthéon est évidemment un symbole. Bon, alors immédiatement, le secrétaire d'État a écrit une lettre à ce mouvement d'anciens officiers, machin truc. Vous savez, c'est des nostalgiques aussi. Enfin bon, pendant qu'il fait la guerre, il est sur le front en Lorraine. Il écrit tous les jours à ma mère. Il y a la censure militaire, donc il ne peut pas dire grand-chose. Mais il y a une chose qu'il dit à mot couvert, c'est qu'il sent chez certains officiers, qui voient, hein, une admiration du nazisme. Enfin, c'est exactement ce que dit Marc Bloch. au fond, plutôt Hitler que Blum, qui est réel.
Et pour faire la rime, plutôt Hitler que le Front populaire.
Alors, à Blum, c'est parce qu'il est juif, en plus. Et c'est cette frange-là de l'armée française qui n'a pas désarmé, même Jean Zay, qui s'engage volontairement, qui est assassiné, eh ben non. J'ai eu le sentiment, parce que c'était violent quand même, qu'on voulait l'assassiner une deuxième fois, quoi. Alors donc, le secrétaire d'État a très vite répliqué à ça. Il y a eu un texte signé des plus grands historiens de la guerre. Bon, il y a eu des répliques, etc. Je crois que tout ça est terminé. Mais enfin, il y a quand même un problème de la France avec une certaine extrême droite. On n'en aura jamais fini avec ça, avec l'antisémitisme, le racisme, l'extrême droite, la haine de la République, enfin tout ça qui a tué Jean Zay finalement. Ça travaille profondément la société française, ça ressurgit à des moments de crise, et on est dans un moment de crise. C'est toujours un combat. Je crois que la victoire contre ces tendances-là en France ne sera jamais acquise. Ça sera toujours un combat et ça ressortira toujours à certains moments. Je crois qu'il y a une spécificité de la France quand même.
Vous avez des historiens comme Zev Sternel, par exemple, qui disent que la France serait l'un des berceaux du fascisme, hein. L'orthographe fasciste qu'on écrit à l'italienne pour nous faire croire que c'est une saloperie venue de l'autre côté des Alpes, alors que chez nous, on a quand même eu le boulangisme et tout un tas de trucs. Dans les années 40, il y a tellement de groupuscules fascistes et fascistoïdes qui pullulent dans tous les coins. Finalement, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur d'autres.
Et ces mouvements-là restent extrêmement minoritaires, mais ce qui est très inquiétant, c'est que un mouvement politique a su prendre cette tradition-là en la rendant acceptable, en la mêlant de social. Bon, je parle là du Front National, évidemment, actuellement, et qui arrive à une place dans l'électorat qui est extrêmement inquiétante. Hein. Donc, évidemment, le fascisme au sens ce qu'on voyait autrefois, moi, quand j'étais étudiante, on voyait les jeunes fascistes, crâne rasé, etc. C'est plus ça. Hein. Mais ça ne veut pas dire que le fascisme est mort. Enfin, est-ce qu'on peut employer toujours le même mot? C'est toujours pareil. Enfin, il faut réfléchir, il ne faut surtout pas plaquer des réalités à une époque où tout ça a changé, mais le danger est le même.
4 janvier 1941. À propos de l'armée française de 1940, l'armée française était devenue une immense administration uniquement préoccupée d'avancements, de décorations, de prises d'armes, de paperasseries diverses. Elle avait cessé d'être un moyen pour devenir une fin en soi. Le rôle de l'aviation dans la bataille, son emploi en liaison avec l'infanterie, l'utilisation des chars en formations autonomes, ces problèmes essentiels de la guerre future qui monopolisaient l'attention des états-majors étrangers n'étaient même pas évoqués aux séances de notre Conseil supérieur de la guerre, aux délibérations de nos états-majors, dans les exercices des camps réservistes où l'on continuait l'école du fantassin comme en 1914 et où évoluait dans les champs le troupier tout seul, tout nu, bondissant de 10 mètres en 10 mètres, son fusil mitrailleur à la main. Et pourtant, comme avant 1914, avant 1939, pas un sou des crédits de matériel demandés par l'état-major ne fut jamais refusé. J'en fus le témoin au sein de 5 gouvernements successifs. Tout cahier de crédit présenté par le ministre de la Défense nationale était immédiatement accepté, sans discussion, quel qu'en fût le chiffre. Seulement, ces dizaines de milliards se transformaient en cuirassés terrestres qu'on allait enfouir dans la terre de Lorraine, où l'on sait leur destin dérisoire.
On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried,
si on la trouve encore là.
Il y eut plus grave encore, si c'est possible. L'armée était rongée du virus politique. Trop d'officiers, dont quelques-uns à des postes éminents, nourrissaient une haine implacable du régime démocratique, une secrète admiration pour le fascisme hitlérien ou mussolinien. Combien d'officiers républicains, appelés par leur fonction de liaison à fréquenter les popotes pendant la guerre, furent terrifiés par les propos qu'on y entendait. Sans doute, il ne faut pas généraliser. Et ces passions intimes n'empêchèrent pas la plupart de faire héroïquement leur devoir le moment venu. Mais à la veille des heures décisives, quel état d'esprit régnait dans certains états-majors?
Je ne dis pas que c'était des traîtres, tout au moins l'immense majorité. Des traîtres, il y en a eu très peu.
17 janvier 1941.
militaires et inspecteurs des finances jouent les premiers rôles en France depuis 6 mois. Ce sont eux qui ont préparé et organisé ce qu'on appelle, sans grande conviction, la révolution nationale.
Maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France.
Ce n'est pas la première fois dans notre histoire que les militaires ont perdu une guerre par leur impéritie et leur manque d'imagination. Mais c'est la première fois sans doute qu'en sanction du désastre, ils s'emparent du pouvoir. La République a souvent craint la dictature des généraux vainqueurs. Elle n'avait pas songé à redouter celle des généraux vaincus.
La patrie.
Quant à l'inspection des finances, sa responsabilité dans nos malheurs, pour être tout autre, moins apparente, n'en est pas moins certaine. Quand on étudiera les causes de notre impréparation militaire et de la décrépitude du gouvernement parlementaire tel qu'il fonctionnait depuis quelques années, il faudra inscrire en bonne place l'orthodoxie financière. De 1932 à 1940, je parle de ce que j'ai vu, au milieu de tant de débats désordonnés, il y eut un sujet tabou. Le libéralisme monétaire et financier. Une discussion interdite, celle du contrôle d'échange. Vous pouviez librement couvrir de boue le chef de l'État et ses ministres, nier effrontément nos engagements internationaux les plus évidents, désavouer le gouvernement de votre pays en pleine négociation diplomatique, donner tort à la France devant l'étranger. Oh, bravo, c'était de bonne guerre. Mais il vous était défendu de critiquer la mystique de l'équilibre budgétaire sous peine d'être considéré comme un traître et accusé de provoquer des catastrophes. Une puissante cohorte veillait jalousement sur le respect de la sainte orthodoxie. Au premier rang se distinguaient la presse et ses chroniqueurs spécialisés, les économistes, les banquiers et les partis conservateurs. Mais derrière ces troupes de choc se dessinait toujours la toute-puissante inspection des finances. Le premier résultat de cet état de choses a été la paralysie gouvernementale. C'est seulement grâce à l'autarcie que depuis 1934, l'Allemagne sans or put réaliser une préparation militaire intense. Le contrôle d'échange, réprouvé par les augures financières, ne fut décidé en France que le 9 septembre 1939, 8 jours après l'entrée en guerre. Juste à temps pour soutenir la guerre, trop tard pour la préparer. Aujourd'hui, les inspecteurs des finances, anciens directeurs du budget, qui furent les principaux responsables de notre politique monétaire d'avant-guerre, sont devenus eux-mêmes ministres des finances ou éminences grises du nouveau pouvoir. La République disparue, ils s'accommodent fort bien de ce contrôle d'échange honni et en proclament la bienfaisance. On n'a pas voulu du contrôle d'échange pour préparer la victoire, on l'applique donc pour payer la défaite et régler les charges du désastre et solder chaque jour des centaines de millions de tributs à l'ennemi.
Jean Zay et Madès France étaient amis, et il y a un parallèle qui se dresse dans Le Chagrin et la Pitié.
Je ne dis pas que c'était des traîtres, tout au moins l'immense majorité. Des traîtres, il y en a eu très peu. Mais enfin, la psychologie, ou plutôt Hitler que Léon Blum, est une psychologie qui avait fait des ravages partout dans les milieux de la bourgeoisie, milieu où baignaient beaucoup de militaires.
Il vient quand même de dire qu'il y a eu des traîtres. À un moment, Mendès, avec son humour pince sans rire dans Le Chagrin et la Pitié, raconte cette anecdote.
Au lendemain donc du simulacre de procès, un homme vient alors voir l'avocat de Mendès.
Et qui lui a dit « Je suis pétainiste, je suis indigné par ce que j'ai vu hier, c'est abominable, c'est un scandale. Le maréchal ne peut pas savoir des choses pareilles, on trompe le maréchal. Et il est indispensable que le maréchal soit prévenu et averti. J'ai vu que vous aviez fait prendre la sténographie de l'audience, que j'apporterai au maréchal lui-même. Le maréchal lui a procuré une sténographie qui était de chez le maréchal, qui n'a naturellement... eu aucune suite. Et l'homme qui a fait cette démarche était un conseiller d'État qui s'appelait Giscard d'Estaing.
Ce Giscard d'Estaing, conseiller d'État de Vichy dont parle Mendès France, n'est pas Edmond, le père de Valérie, mais probablement son oncle René. On en reparlera tout à l'heure, mais revenons-en à Jean Zay qui lui aussi reçoit le même genre de visite. Car on sait dès l'automne 41 que l'Allemagne va perdre la guerre. Certains préparent déjà l'avenir sous giron américain.
Dans Souvenirs et Solitude, il y a ce garde des Sceaux, là, ce Barthélemy, qui vient le voir en cellule et qui se frappe la tête, qui dit « Ah, mais c'est affreux ce qui vous a... »
Il tapote la joue, je crois bien que ça doit être 2 mois, en disant « Mais c'est affreux qu'elle est... » Il n'en dit pas plus. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Mon père lui répond rien parce qu'il est tellement désarçonné par cette attitude. Mon père conclut cet en disant qu'il a pensé un moment à le consoler, lui. Il faut dire que Barthélemy est le garde des Sceaux. Il a écrit ensuite un livre, comme beaucoup de collaborateurs qui visaient à le réhabiliter, où il dit que c'est grâce à lui si Jean Zay a obtenu un régime de détention proche du régime de prisonniers politiques. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, manifestement, déjà à cette époque-là, il ménage l'avenir. Il est à la fois dans le gouvernement de Pétain, mais il veut qu'on puisse dire après, comme beaucoup, hein, le double jeu. Oui, j'étais là, mais enfin, je n'étais pas là, quoi. On ménage l'avenir. Si jamais l'Allemagne perd la guerre, ben, on pourra dire « Ah ben oui, j'ai sauvé des Juifs, ah ben oui, j'ai aidé Jean Zay, ah ben oui ». C'est très répandu.
Je commence à comprendre, parce que dans Souvenirs et Solitude, il dit qu'il y a tout un défilé. Enfin bon, il y a tous les gens de l'hôtel du Parc à Vichy qui se donnent le mot, qui vont voir les gens incarcérés comme s'ils allaient au zoo.
Comment comprendre une telle hypocrisie, enfin... Je crois vous avoir parlé des 2 lettres magnifiques qu'il envoie juste après le procès de Clermont-Ferrand, une lettre à Pétain. Daté de novembre 40, il souligne à Pétain l'ignominie de ce jugement en disant que s'il ne fait rien contre ça, ça restera à son déshonneur et à sa honte. Et puis une autre lettre à Barthélemy aussi, en janvier 41, qui est également magnifique. Enfin, mais voilà, cette scène est incroyable. Et là, ce qui est admirable, c'est l'humour de mon père qui arrive encore à s'amuser, enfin en tout cas, de cet épisode.
Pourquoi la figure de ce héros de la République auquel on doit pourtant tant de progrès social a-t-elle en 1944 disparu corps et biens pendant un demi-siècle pour ne commencer à timidement réémerger que dans les années 90?
À Orléans, la première rue Jean Zay a été inaugurée en 94. C'est l'avenue Jean Zay. Alors il est vrai qu'avant il y a eu le baptême du lycée Jean Zay, je crois que c'est les années 60. Mais comme vous dites, il a fallu du temps, oui. Pourquoi ça? Il faut vraiment mettre cette question-là en relation avec l'histoire de la mémoire en général en France de la collaboration.
De la collaboration, 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 collaboration.
D'abord, il faut dire que la mémoire de Jean Zay, en effet, n'a pas été... Sauf dans les milieux d'éducation nationale. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais enfant et resté très vivant chez... D'abord, les ministres qui ont succédé, alors avec plus ou moins de vivacité selon le bord politique qui était le leur, mais dans la mémoire des enseignants, dans la mémoire des associations d'éducation populaire, sa mémoire est restée vive. Mais c'est vrai que du point de vue national, elle n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Vous savez, c'est humain. Quant à la libération, ont été réalisés ce qui avait été engagé par Jean Zay pendant son ministère. 2 exemples particulièrement frappeurs, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, la création de l'ENA, c'est le Festival de Cannes, c'est les classes nouvelles aussi dans le domaine éducatif qui sont dans la droite ligne de ce que Jean Zay avait. D'ailleurs, c'est des collaborateurs de Jean Zay qui ont mené ces actions-là. Eux, ils l'ont rappelé, mais par exemple pour Cannes, pour l'ENA, pour le CNRS, mais personne ne... Les gens qui ont agi à ce moment-là se sont attribué le mérite d'avoir créé ces institutions, mais ont oublié de dire que c'était Jean Zay. L'ENA, c'est particulièrement caractéristique. Encore une fois, le projet de loi, nous, on l'a dans les archives. Hein. Il a été déposé sur le bureau de la Chambre des députés, pas voté par le Sénat à cause de l'opposition. Mais on crée l'ENA et on dit, moi, j'ai créé l'ENA. Je ne dirais pas qui, mais... De même, Cannes, etc. Donc, les absents ont toujours tort, hein, et les morts encore plus.
6 octobre 1942. Le manque de caractère dont ont fait preuve tant de hauts fonctionnaires républicains depuis juin 1940, la facilité avec laquelle ils ont subi les nouveaux maîtres, assumé sans révolte de conscience toutes les besognes qu'on leur imposait, ont illustré tristement l'insuffisance de leur formation civique et professionnelle.
La République a payé de leur reniement l'une de ses plus fâcheuses défaillances. Elle avait négligé de surveiller leur recrutement, d'assurer elle-même leur formation. Ils ne l'ont pas défendu. D'où sortaient en effet nos hauts fonctionnaires sous la Troisième République ? Soit d'une grande école privée, celle des sciences politiques, qui disposait d'un véritable monopole et fournissait seule, par exemple, les diplomates, les forgeant dans un esprit de classe, pour ne pas dire de caste, en les dotant d'un zèle démocratique bien faible. Soit de concours trop spécialisés, trop fermés, enclins à prodiguer les œillères qui affligeaient jusqu'aux plus brillants sujets de l'inspection des finances. Soit de l'improvisation administrative et de la faveur politique, comme les préfets dont la carrière était livrée au hasard, tout chef de cabinet sans diplôme ou presque devant normalement devenir préfet pour peu qu'il eût quelque entregent et un peu de protection parlementaire. Cet état de choses avait pour résultat de rendre vain dans un domaine important le principe de l'égalité des enfants devant l'instruction et au seuil des carrières publiques. Le savoir et l'intelligence n'étaient plus seuls à conditionner l'accès à toutes les fonctions. Il y fallait souvent la fortune, la naissance. Quel enfant du peuple a jamais pu être ambassadeur ? Et cependant, notre corps diplomatique, que trop de sang bleu anémiait, eût utilement reçu de nouvelles infusions. Peu à peu s'emparait des leviers de commande dans ces cadres administratifs qui survivaient à tous les changements politiques et constituaient la véritable armature du pays, des hommes dont quelques-uns étaient notoirement au-dessous de leurs tâches et dont beaucoup ne nourrissaient pour le régime qu'ils servaient qu'une fidélité théorique. L'État français n'avait pas trouvé le temps d'entreprendre lui-même la formation de ses hauts fonctionnaires, soin essentiel auquel s'attachaient tous les autres pays. Bien des périls devaient en découler.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Les gouvernements d'après-libération vont dès 1944 blanchir, voire même parfois convertir en résistants, la plupart de ces hauts personnages français qui ont pourtant collaboré avec les nazis. La légende de Gaulle a gommé que 1940-1944 fut une guerre civile dans le contexte d'une lutte des classes à la violence exacerbée. Pour reprendre l'exemple des Giscard d'Estaing, sur la dernière ligne droite de 1944, on met un uniforme des forces françaises libres sur le dos du jeune Valéry et on escamote la participation au gouvernement de Vichy de son tonton René, son papa Edmond s'étant, lui, contenté de rester dans l'ombre du régime fasciste. René et Edmond Giscard d'Estaing, hauts responsables de la finance privée française, ne devaient rien ignorer des complots réussis avec Pétain que les dirigeants économiques français ourdissaient depuis des années contre la République. A noter que le papa et le tonton de Valéry, futur président de notre pauvre République, furent tous deux décorés de la Francisque, comme Mitterrand. Certains appellent ça les Vichysseaux résistants. À la Libération, impossible pour De Gaulle de remplacer tous ses grands collabos par d'authentiques résistants, dont la majorité sont communistes. Inacceptable pour le nouveau pouvoir américain. Car avec la guerre froide que les USA esquissent déjà contre l'URSS, l'allié d'hier qui a pourtant militairement vaincu les nazis en Europe, c'est sous l'œil circonspect, voire hostile des États-Unis que De Gaulle forge et fédère, autour de lui évidemment, la geste d'une France unie contre l'occupant. Légende dont Jean Zay est escamoté pendant 50 ans.
Il a disparu pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, il se passe beaucoup de choses. Quand on sait ce qui est arrivé, on est en 48. Et quand son assassin, enfin un des assassins est jugé, on est en 53, au moment où il y a les lois d'amnistie. On a quasiment libéré beaucoup de collaborateurs. Donc on n'a pas envie de revenir. Et puis il y a d'autres préoccupations, c'est la guerre froide, etc., etc. Le contexte ne s'y prête plus. Et puis si on avait su en 1946 comment Jean Zay avait été assassiné, il serait devenu un héros de la République.
il a été assassiné non pas par des Allemands, mais par des miliciens français, sur ordre de Darnan.
C'est une affaire franco-française.
Ça, c'est un petit peu douloureux quand même de rappeler que cette période de l'occupation, il n'y a pas que les gentils français, entre guillemets, et les méchants allemands. C'était une guerre civile et que tout ça, finalement, empiétait un peu sur la légende, j'allais dire gaulienne. Enfin, on a tous été Jean Moulin. Hein.
Parce qu'à la libération, de quoi on a envie de parler de la résistance? On est dans l'euphorie et on n'a absolument pas envie, pour toutes sortes de raisons, parce que les collabos se tairent et évidemment... Mais aussi parce qu'on préfère parler de ce qui honore un pays plutôt que ce qui le déshonore. On parle beaucoup de la résistance, on parle de la déportation-résistance, et il y a des sujets dont on ne parle pas. Ces sujets, c'est la déportation juive en particulier, et la collaboration. Et en particulier, de la collaboration dans ce qu'elle a de plus terrible, ce sont des gendarmes français qui ont mis les enfants dans les trains qui les conduisaient à Auschwitz. Bien sûr, ça n'est pas Vichy qui a décidé de la solution finale. C'est la police de Vichy qui a arrêté ses enfants. Et il est impossible de croire que ce soit Pétain, Laval ou d'autres aient absolument ignoré ce qui attendait ses enfants. Donc, vous savez que Pétain a été jugé en 1945 pour trahison, pas pour sa complicité. Il faudra des années pour qu'on parle de cette question-là. Il a fallu que ce soit un historien américain, Robert Paxton, qui écrive le premier livre d'importance sur Vichy. Et il a fallu attendre en gros les années 80 pour que, enfin, on se retourne sur ce passé, sur la collaboration, sur ce qu'a été effectivement en France la déportation des Juifs de France et le rôle de la milice. La milice, alors, ils s'étaient tous dispersés dans la nature. Bon, vous connaissez l'histoire de comment les collaborateurs ont échappé finalement à la justice. Donc, il y a très peu. Il y en a quelques-uns qui sont tout de suite jugés. Les premiers responsables, Darnan, son chef de cabinet, Clémoz, et on les exécute tout de suite. Ils n'ont pas l'occasion, si je puis dire, de dire des choses qui peut-être auraient pu gêner quelques-uns. Une des grandes raisons quand même de ce fait qu'il n'y a pas eu de grands livres sur Jean Zay pendant des années, c'est ça, c'est qu'il est assassiné par des miliciens. Et donc, évidemment, si on parle du ministre, forcément on parle de ses assassins. Et c'est la milice. Il y a d'autres raisons aussi. Il n'appartenait pas aux grandes mémoires qui ont été au premier plan à la libération. Bon, on a parlé, je crois, de la mémoire gaulliste, hein, comment peu à peu. Elle a été managée, si je puis dire, la mémoire gaulliste, hein, dès juin 40, le départ à Londres, occulte complètement le départ du Massilia, par exemple. Or, à 3 jours d'intervalle, c'est le même geste de résistance. Simplement, ceux qui sont partis sur le Massilia, bon, ça a été un piège. Donc, il n'appartient pas, de fait, à la mémoire gaulliste. Il n'appartient pas à la mémoire communiste, qui a été quand même une des grandes mémoires à la libération. En ce qui concerne le Parti socialiste, enfin la SFIO, enfin, la mémoire de Blum a été entretenue par le Parti socialiste. Jean Zay, c'est le Parti radical. Et ce Parti radical, à la libération, il n'est pas grand-chose. Et justement, c'est peut-être là où il aurait... Ils se sont réveillés récemment au Parti radical, hein, mais ils n'ont pas vraiment porté la mémoire de Jean Zay. Donc toutes ces raisons-là font que pendant des années, cette mémoire s'est estompée. Les historiens n'ont pas écrit, de même qu'ils n'ont pas écrit sur la collaboration et sur Vichy. C'est Paxton le premier. Pour avoir les grands livres sur Vichy, il faut attendre les années 90 quand même. Sur les camps d'internement par exemple. À la libération, on parle des déportés résistants. Et le camp emblématique, c'est Buchenwald. Mais on parle peu, je ne dis pas qu'on n'en parle pas du tout, mais ça, on voit bien que ça n'a pas d'écho vraiment beaucoup dans la population. On parle peu de la déportation juive, et on ne parle pas d'Auschwitz-Birkenau, de ce qu'on appelle les camps d'extermination. Ce retournement de la mémoire, encore une fois, ben c'est la fin des années 80, où là, le curseur va se déplacer. Alors il y a un effet de balancier aussi, hein, qui fait que la France va, non pas découvrir parce qu'elle le savait, mais va ressortir toute cette histoire.
C'est fascinant d'ailleurs ce processus de balancier. 45, on avait tous été résistants, on était tous Jean Moulin. Après, il y a Le Chagrin et la Pitié qui sort et Le Balancier va dans l'autre sens. On était tous des salauds et des collabos et machin. Et puis là, est-ce que Le Balancier va peut-être se rééquilibrer en...
C'est la question qui se pose. On voit en effet des signes chez certains de réhabilitation de Vichy. Puis des idéologies qui remontent à la surface et qui s'expriment surtout, des tabous qui sont tombés. Moi, je crois beaucoup aux tabous, en particulier sur l'antisémitisme, qui ont fonctionné pendant des années après la guerre. C'est fini, ils sont tombés. Sur le racisme aussi, enfin, c'est une période, en effet, où on peut se demander s'il n'y a pas un retour du balancier, qui évidemment prendra des formes nouvelles, hein, de même qu'il y a une nouvelle forme d'antisémitisme qui est très différente de l'antisémitisme d'avant-guerre, mais c'est une nouvelle forme mais qui est de l'antisémitisme.
Bien que la mémoire et l'histoire de Jean Zay s'évanouissent à la Libération, il reste par contre son œuvre, ses réformes et ses idées qui vont être reprises, parfois même pillées.
Au fond, cette mémoire-là n'a pas été revendiquée, vraiment, sinon par une certaine tradition de l'éducation populaire. Par exemple, sur le plan culturel, la décentralisation, par exemple, qui a éclos à la Libération, c'est une très belle idée. Et c'est une idée de Jean Zay. Il y a des textes où il dit il faut absolument que, désormais, dans telle ville de province, il y ait des théâtres, des musées qui fassent venir le public, que tout ne se passe pas à Paris, mais qu'il y ait des grandes manifestations culturelles de qualité dans les villes de province. Et la décentralisation théâtrale, elle vient aussi de ça. Tout ça a éclos, si je puis dire, la Libération. Mais bon... C'est de l'oubli, c'est une façon de récupérer, c'est tout ce qu'on veut selon les individus. Jean Villard, par exemple, le grand Jean Villard, il se revendiquait beaucoup de Jean Zay. Hein. Jouvet aussi, Jouvet qui avait été installé à la Comédie-Française par Jean Zay, eux, ils n'ont pas oublié. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on était invité au Festival d'Avignon avec ma mère. Jean Villard, il a gardé le souvenir. Il savait que ce grand mouvement de théâtre populaire, l'idée d'un théâtre populaire, c'est dans les textes de Jean Zay complètement. Et donc des grands artistes comme lui, comme Barrault aussi, hein, avait gardé ça. Et sa mémoire était vivante chez des individus, chez des hommes. Mais voilà, il manquait en effet le travail des historiens et le travail de la mémoire. Parce que vous savez, là, on dit souvent devoir de mémoire, j'aime pas cette expression. La mémoire, c'est un travail de mémoire et devoir d'histoire. Je pense que les historiens, pendant des années, n'ont pas accompli ce devoir qui aurait dû être... Je parle des historiens français. Ils se sont mis au travail, au fond, sur ces questions-là, tardivement.
Alors, Hélène Moucharzé, par quel processus la figure de Jean Zay commence-t-elle à réapparaître dans les années 90 jusqu'à son entrée au Panthéon en 2015 ?
D'abord, il y a eu encore une fois ce basculement de la mémoire qui s'est développé dans les années 90. On s'est mis à parler de Pétain, de la collaboration, etc.
Les années aussi, d'un seul coup, on ressortait Bousquet et Papon des cartons.
Il y a eu l'histoire de Bousquet, puis il y a eu le procès Papon un peu plus tard. En 94, il y a eu un anniversaire important à Orléans, le cinquantenaire de l'assassinat de Jean Zay. 94, ça a été important parce que c'est là où la première avenue Jean Zay a été baptisée. Mitterrand est venu, c'était l'inauguration de la médiathèque, et il y a eu déjà un mouvement autour de cet anniversaire. Alors c'est vrai que ma sœur et moi, enfin ma mère d'abord, a beaucoup fait pour sa mémoire, dans une sorte de fidélité à ses idées, même si elle n'a jamais voulu s'engager dans la vie politique, etc. Moi j'ai du mal à dater, mais disons début des années 2000, très progressivement, moi j'ai senti un intérêt nouveau. Chez les gens, chez les historiens. Chez...
Est-ce qu'il ne faut pas attendre que ça passe aussi ?
C'est ce qu'on dit. Certains m'ont dit, vous savez, il faut attendre 50 ans. Il y a eu 2004, le centenaire de sa naissance aussi, qui a été un autre événement, c'était une commémoration nationale. Parce que je crois que la situation politique aussi appelait à convoquer des personnages comme lui, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'il représente toujours, les valeurs, enfin, j'aime pas le mot, mais j'en ai pas d'autres.
Idéaux ?
Oui, on peut dire ça. Dans son action éducation nationale et culture, de démocratisation, de modernisation, puis aussi de rigueur dans la marche de la République. C'était un grand républicain. Enfin, moi, j'ai senti peu à peu, comme l'a dit un jour quelqu'un, mais cette expression m'a frappée, qui devenait une icône républicaine, c'est-à-dire l'incarnation de la République. Ce qui avait été assassiné le 20 juin 1944, et ça, je crois que c'est vrai, c'était la République. Hein, parce que les miliciens qui l'ont assassiné savaient que tout était perdu pour eux. Ils savaient aussi que cet homme contribuerait à la restauration de la République. Et ce qu'il tue en Jean Zay, c'est la République dont ils ne veulent pas qu'elle renaisse. Parce que dans Souvenir et solitude, cette réflexion que mène Jean Zay, c'est comment faire une République plus forte et plus juste. C'est ça qu'on assassine. Et dans les années 2000, moi j'ai senti un appel extraordinaire. Ça vient des événements, du contexte. Et de plus en plus les années avançaient, que dans l'opinion, on avait besoin de convoquer des figures comme ça, étant donné l'évolution du pays. Du coup, il y a des gens qui se sont mis à militer aussi, étant donné son œuvre, étant donné le symbole qu'il représente, la République qu'il a défendue, qui se sont mis à parler du Panthéon. Puis il y a une association qui s'est créée, etc. etc. Et puis c'est vrai qu'après ma mère, ma sœur et moi, bon, on a fait ce qu'on pouvait. Hein. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'édition des Écrits de prison, en particulier, ce gros volume. Mais tout ça est un peu tardif, hein. C'est la fin des années 2000. Et puis surtout, bon, le Panthéon, l'entrée au Panthéon en 2015, fait que, alors il y a une sorte d'explosion de livres sur lui. C'est un cheminement, si vous voulez, mais qui s'explique, je crois, à la fois par l'histoire de la mémoire et ce basculement dans les années 90, la prise de conscience de ce qui s'était passé vraiment pendant la guerre, et puis, encore une fois, l'évolution du pays. Qu'est-ce que c'est que l'action politique dans notre pays? Parce que, franchement, quand on voit les mœurs politiques actuelles et ce qu'on voit dans Souvenirs et solitude et comment ils concevaient la politique, ce que c'est que les médias actuellement et les critiques qu'il en fait, etc., c'est une figure à la fois très droite, sans concession, une vraie figure républicaine. Et on a besoin de rappeler ce qu'est la République, parce qu'elle est mise à mal beaucoup en ce moment.
Il est bientôt temps de quitter votre invité, Hélène Moucharzet, que vous retrouverez prochainement dans d'autres émissions, là sur le CERCIL, Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret, dont elle est une fondatrice. Car il faut le savoir, partout en France pendant l'occupation et même avant, il y eut des camps, parfois gardés par des gendarmes français, comme à Beaune-la-Rolande ou à Pithiviers. Mais avant de retrouver Madame Moucharzet comme professeure d'histoire, songez que, comme tous ces enfants qui perdent leurs parents dans les guerres, elle et sa sœur sont des orphelines. Il ne doit pas être évident de se construire, à la fois dans l'ombre et l'absence d'un père disparu si jeune, et qui est aussi une sorte de bienveillante et républicaine statue du commandeur, absente et présente.
Oui, enfin, c'est en effet pas facile, ni évident, d'autant plus que c'est d'abord une absence d'un père quotidienne, et puis en même temps un père très présent par cette mémoire. En effet, pour un jeune enfant, mais même après, c'est difficile, et je crois que c'est en tout cas quelque chose qui a pu influencer et déterminer profondément mes engagements ultérieurs.
Est-ce que c'est notamment cette histoire qui va aussi déboucher sur la création du CERCIL, le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret?
Bien sûr, même si au moment où j'ai commencé à travailler sur ce qui allait devenir le CERCIL, je ne l'ai pas pensé aussi directement que ça. D'abord, il y a une chose qui me tourmentait tellement qu'il fallait créer quelque chose qui rappelle l'histoire de ces enfants assassinés. Enfin, je parle des enfants, mais aussi des adultes. Risquait fort, si on ne rappelait pas leur mémoire et leur histoire, de ne rester que des noms sur des listes et d'être oubliés. Avec la conviction que j'avais en même temps qu'en ce qui concerne mon père, qui était victime aussi, d'une certaine façon, de cet oubli, mais je savais qu'il avait sa place dans les livres d'histoire. Qu'un jour ou l'autre, j'avais cette espèce de conviction, même à un moment où ce n'était pas le cas. En revanche, si personne ne s'occupait en particulier de ces camps de Pithiviers-Beaune-la-Rolande, qui étaient largement méconnus au début des années 90, bref, il y avait une espèce de nécessité, si vous voulez. À partir du moment où j'ai réalisé cette histoire, etc., il fallait que je le fasse. Et ça, bien évidemment, ça vient de mon histoire personnelle. Et puis la deuxième chose, c'est la responsabilité de Vichy. C'est que dans les deux cas, Vichy est criminel. d'une certaine façon rappeler l'histoire de ces camps d'internement gérés par Vichy, les arrestations menées par les policiers de Vichy. Bon, ben, ça, évidemment, c'était aussi d'une certaine façon l'histoire de mon père. Et voilà, c'est bien sûr que ça a à voir.
Il est demeuré de Jean pour les hommes et pour les femmes de ma génération et surtout pour ceux qui l'ont approché, connu et admiré. Une image exceptionnelle de lumière, d'intelligence et d'humanité. Alors que notre époque, dans le combat puis dans la reconstruction des choses et des caractères, a tant manqué de modèles et d'exemples, et que nous aurions tant eu besoin de lui pour affronter notamment les difficultés de l'après-guerre, c'est un grand malheur pour le pays tout entier qu'il ait été sacrifié à l'aube de la libération. Il aurait été l'un des meilleurs, l'un des animateurs d'une génération qui en a trop été privée. Ceux qui l'ont assassiné ont porté un coup non seulement à ceux qui l'ont aimé, mais au pays tout entier. Pierre Mendès France, 1982.